Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Juste avant de commencer l'épisode, je vous informe que cet épisode est réalisé en collaboration avec ADC, Au-delà du cuir. C'est l'incubateur d'entreprise de la filière cuir. ADC est au cœur de l'écosystème de la mode et il ouvre aux entrepreneurs les portes nécessaires pour développer leur concept. Marques de chaussures, de maroquinerie ou projets innovants autour de la matière cuir, des méthodes de fabrication ou de distribution, ADC est la porte d'entrée pour ces projets. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Cordoleani, il est le fondateur de Archipel Paris. Salut Sébastien.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît ?
Oui, donc je suis Sébastien Cordoleani, je suis designer industriel.
Ouais.
J'ai 40 ans, j'habite à Paris. J'ai un parcours assez long et effectivement, depuis 3 ans, je suis complètement dédié à cette marque Archipel Paris.
Très bien. Ma deuxième question, tu la connais sans doute, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fondation en fait d'Archipel Paris, et puis après on rentrera dans les détails de Archipel Paris.
Bon, j'espère que tu as du temps, 10 heures. Je suis né à Aix-en-Provence, donc je suis un sudiste comme on dit.
Ouais.
J'ai fait mes études à Aix au départ, c'est totalement faux, je suis venu à Paris pour faire mes études, mais précédemment j'ai fait un lycée d'art appliqué. D'accord. À Aix-en-Provence.
Ouais.
Je suis arrivé à Paris en 96 pour faire un BTS à Olivier de Serres.
D'accord.
Dans le 15e.
Olivier de Serres, c'est quoi pour ceux qui connaîtraient pas?
Olivier de Serres, c'est l'une des 4 grandes écoles de l'éducation nationale, avec Boulle, Estienne et Dupéré, qui ont chacune une coloration. Celle d'Olivier de Serres, c'est les métiers d'art et le design industriel. Enfin, disons que c'est ce qui est mis en avant. Après, en fait, il y a un petit peu toutes les sections. Elle est justement très pluridisciplinaire et c'est pour cette raison que je voulais l'intégrer. Donc, en étant à Paris, j'ai découvert une autre école à cette époque-là qui s'appelle l'ENSI, les Ateliers Saint-Sabin.
Ouais.
Donc, ENSI, ça signifie École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Elle est située rue Saint-Sabin, dans le 11e à Paris. Et j'étais extrêmement séduit par cette école, puisque l'enseignement que j'avais reçu en BTS était assez très normé, disons. Donc, ça m'a permis d'acquérir plein d'outils de dessin, de conception, etc. Mais pour le dire peut-être un petit peu de manière un petit peu simpliste, disons qu'on allait me demander de dessiner une chaise ou un tabouret. Et à l'ENSI, on allait me demander pourquoi s'asseoir, ou moi-même j'allais me poser des questions et partir de bien plus haut en fait, reposer les questions de manière beaucoup plus fondamentale
prendre de la hauteur,
avant d'aller vers des solutions toutes faites. Voilà.
Ouais.
Du coup, j'ai décidé d'intégrer l'ENSI, j'ai eu la chance d'être pris et je suis rentré en 98.
Champion du monde.
Pardon ?
Champion du monde. Ouais. 98. Chaque fois que j'entends cette date, je me dis champion du monde.
Et là-bas, j'ai eu un parcours très diversifié. C'est le principe de l'école. T'as des ateliers sur la cour, de bois, de métal, un studio photo, studio son.
Mais ça, c'était extraordinaire, non ?
Ça, c'était incroyable. Et c'est surtout extrêmement ouvert. Je pense que c'est une des expériences les plus fortes de ma vie, ces 5 années passées dans cette école qui était à la fois très déroutante. Parce que tout d'un coup, tu rentres dans un cursus qui correspond, je pense, à une école Freinet ou une école Montessori. Et même si t'es un petit peu plus âgé, en fait, t'es juste face à toi-même, t'as plus de notes, t'es dans des échanges qui sont pas... Il y a plus de classe, tout le monde est mélangé. En fait, c'est ce qui fait la richesse de l'école. C'est à la fois sa pédagogie, mais sa pédagogie n'est pas... ne vient pas des pédagogues uniquement vers les étudiants, mais c'est une pédagogie qui est... dans l'air en fait, qui est palpable, qui est de l'ordre des échanges continus entre tous. Donc tu te retrouves tout d'un coup à travailler sur un premier projet avec d'autres étudiants qui sont là déjà depuis 4 ans, qui ont 40 ans alors que tu en as 25 parce qu'ils sont en reconversion. Enfin, tout est très ouvert. Ouais. Voilà.
Et ça, c'est une école qui prépare à quoi ? Derrière, les gens font quoi après une école comme ça ?
Alors, la vocation de l'école, c'est la création industrielle.
D'accord.
Donc, c'est le design industriel. Donc, on est quand même lié à une pensée, je dirais, sérielle. C'est-à-dire, comment penser un objet pour qu'il soit reproductible dans sa réalisation. Bon, en disant ça, je dis pas grand-chose. Ça, c'est un petit peu les canons de l'industrie et de la reproductibilité technique d'un objet. En fait, l'école est beaucoup plus ouverte et c'est ce qui fait, pour moi, son intérêt, c'est que tu as des profils extrêmement variés qui sont sortis de l'école. Et l'école, justement, a une bienveillance et une intelligence qui est d'avoir créé des parcours individualisés, singularisés. Et donc, en cours de parcours, si on s'aperçoit qu'en fait tu as beaucoup plus de dextérité ou d'inclination pour une matière, que finalement tu fais que de la photo ou tu t'intéresses particulièrement au bois, ben ça va pas être un problème. On va t'accompagner dans ce sens, sans chercher justement à normer les étudiants. Donc il y a autant de profils qui sortent de cette école que de personnes.
Et les gens font quoi derrière ?
Ah, des choses très variées. Ouais, tu as des designers indépendants, comme je l'étais, c'est-à-dire qui cherchent à créer leur propre studio, à avoir une patte, à être un peu touche-à-tout. Des designers qui vont intégrer des grandes entreprises, qui vont rester, je dirais, dans leur cœur de métier en dessinant des produits ou des objets. D'autres qui vont devenir directeurs artistiques ou chef de produit ou faire beaucoup plus de la stratégie. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à tous les niveaux. T'as aussi des personnes qui deviennent plus ou moins artisans, comme je l'ai été également. Non, c'est très 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 varié. J'ai des amis qui sont devenus photographes, qui font du son.
C'est
Flavien Berger est sorti de l'ENSI.
D'accord.
Bon, même s'il est, on va dire plutôt, il est passé par l'ENSI, mais tu vois, c'est assez drôle.
Il était de ta génération, Flavien Berger ?
Pas du tout.
Non. il est un tout petit peu plus jeune, non ? Il a quel âge ?
Un tout petit peu. Je pense qu'il a 15 ans de moins.
Ah oui. D'accord. Et alors toi, raconte-nous, tu sors de l'ENSI, qu'est-ce qui se passe après l'ENSI ?
Alors, je sors de l'ENSI, j'ai intégré un studio de prospective qui s'appelait Lub Innovation.
Ok.
Donc on est en 2005, je suis sorti en 2004. Et tout d'un coup, en fait, je deviens le directeur de cette entreprise avait inventé un néologisme et il nous appelait des imagineurs. Bon. Et en fait, on travaillait pour McCain, Dior, Carrefour, pour des grandes enseignes. Et l'objectif était de prospecter, de faire de la prospection pour du développement de nouveaux produits. On était, je trouve, à une autre époque par rapport à l'époque actuelle où tout était un peu fast, un peu démonstratif. Et en fait, mon travail consistait à mettre en image des produits qu'on pensait conjointement avec le bureau de marketing. Enfin, c'était surtout une agence de marketing, en fait. Et bon, c'était intéressant. mais j'avais aussi parfois l'impression de pactiser avec le diable, comme on dit.
Ouais.
Mais c'était une expérience très intéressante quand même.
Donc c'était vraiment très très grande distribution.
C'était plutôt des grands groupes.
Ouais.
Et après, ce qui était intéressant, c'est que les sujets qu'on abordait touchaient à la fois le produit, l'expérience d'achat, comme on dit.
Mais McCain, c'était la forme de la frite, du packaging, de comment tu le...
Ah, je t'ai donné ce nom et je me souviens plus. Mais oui, c'était comment communiquer sur la forme de la frite.
Okay.
Ouais, que dire dessus, quelle forme réinventer éventuellement.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
C'était beaucoup de travail de symbole, en fait.
Excellent. Mais c'est formateur, mais bon, voilà, c'est pacte avec
le
diable.
C'était formateur, mais c'est pas mon objectif de vie.
Ouais.
Donc, mais c'était très intéressant, du coup, d'avoir cette expérience.
Mais d'ailleurs, comment t'es tombé sur ce cabinet de prospective?
Parce que je remplaçais un ancien de l'école.
D'accord.
Voilà. Qui quittait son poste pour aller dans une autre agence et qui m'a proposé tout simplement. Donc, j'ai passé un entretien et puis voilà, ça a été assez fluide.
Et t'as fait ça combien de temps?
J'ai fait ça pendant une année.
Ok.
Ensuite, j'ai repris mes libertés et je me suis fixé... moi, j'ai souvent marché par concours parce que j'avais besoin de me fixer des challenges.
Des échéances aussi.
Voilà, des échéances. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, j'avais envie d'obtenir le Grand Prix de la création de la ville de Paris.
D'accord.
Et au travers de ce Grand Prix, j'avais surtout envie de dédier plusieurs mois de recherche et d'élaboration de projets, parce que je me cherchais encore un petit peu dans ce que je souhaitais faire, pour présenter une démarche, voilà, et la confronter à un jury et voir quel écho elle aurait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai développé des projets qui seraient peut-être difficiles à expliquer rapidement, mais qui jouaient sur la magie des objets. Donc j'avais développé une lampe qui était un quart de lampe qui part avec un jeu de miroir, par principe de réflexion, reformer l'image totale d'une lampe. Je sais pas si ce sera compréhensible.
On mettra une photo dans les notes.
Un projet de Judas aussi dans les portes qui permettait en fait de voir ce qui se passe derrière une autre porte dans le monde. Enfin voilà, j'avais fait des projets qui jouaient vraiment sur de l'étonnement, de la magie, etc. J'ai eu mon petit succès puisque ça a fonctionné et j'ai eu le prix.
Génial.
Et ça m'a permis de déboucher sur une autre expérience puisque le bras droit à l'époque d'André Poutman faisait partie du jury.
Génial.
Et m'a proposé juste derrière d'intégrer
le studio.
Voilà.
D'André Poutman.
Exactement.
Qui était encore vivante à l'époque.
Absolument.
Et elle était encore à la tête du...
Elle était encore à la tête et on était... donc du coup, je suis parti travailler au sein de l'agence pendant quelques mois.
Ouais.
Qui se situe à côté de Denfert Rochereau. C'était une espèce de maison manoir dans une cour un petit peu dérobée. Et du coup, André était, il me semble, au dernier étage. Donc, de temps en temps, je prenais les escaliers pour aller montrer mes esquisses, discuter avec elle. Et voilà, donc c'était assez riche en termes d'échanges.
Quel kiff, quoi. Ouais. C'est incroyable.
Ouais.
D'accord.
Donc ça, c'était 2006.
Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris de André Poutman, alors?
Ah, différentes choses. Des choses qui m'ont surprise. La première chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, tu as une puissance du lieu, des personnes qui t'entourent, qui te conduit à réaliser des projets. Je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas très clair. À un moment donné, je devais faire une proposition pour Vuitton et on devait revisiter un sac emblématique qui s'appelle le Steamer, qui est un sac absolument sublime que j'adore. Et donc, évidemment, dans la démarche, première chose, on se dit, bon, quels sont les codes d'André et comment les réintégrer sur le sac. Y a le damier, notamment. Et comment présenter ce sac qui est quand même assez petit dans un espace qui allait être la coupole qui est au dernier étage dans la galerie Vuitton sur les Champs-Élysées. Et comme il s'appelle Steamer, ça signifie vapeur, en fait c'est un sac qui était utilisé précédemment dans les navires qui faisaient la transatlantique. J'ai pensé naturellement à faire un ballon et en fait suspendre le sac en lévitation dans l'espace avec un grand ballon. Donc tu vois, je pensais avoir une idée. Et très rapidement, quelqu'un de l'équipe m'a dit « Ah, mais attention, parce que là, ça va choquer André, parce que je comprends pourquoi t'as fait ça, mais quand même, ça avait été un échec dans les années 80, ce projet. » Et moi, je comprenais pas de quoi on parlait. Et en fait, précédemment, elle avait fait une proposition du même acabit pour présenter des Ferrari, qui devait sembler être tombé du ciel dans le jardin d'un château, et donc avec un système de ballons qui était accroché, des ballons gonflés à l'hélium accrochés à chaque voiture. Et en fait, il se trouve qu'avec la pression atmosphérique, le vent, etc., c'était un fiasco puisque les ballons étaient à moitié dégonflés et se baladaient autour des voitures. Donc j'avais une sorte de frein à l'intérieur de l'entreprise, enfin de l'agence, mais qui m'apprenait en même temps que l'idée que j'avais eue était dans l'air, en fait, elle l'avait déjà eue. Et finalement, en fait, je lui ai présenté, elle était enchantée, et c'est ce qu'on a développé par la suite. Donc ça, c'est une chose que je trouvais assez assez marquante, tu vois, de se dire, t'es dans le studio de quelqu'un qui a un nom, qui a des habitudes, que tu peux consulter parce que tu as des archives de l'entreprise, etc. Mais même sans être totalement spécialiste, puisque moi j'étais pas du tout spécialiste de sa démarche avant d'y arriver, ben les choses viennent d'elles-mêmes et font sens. Mmh. Voilà. Et l'autre chose que j'ai apprise avec elle, c'est qu'on peut avoir une forme d'élégance très forte dans la simplicité et avec des matériaux étonnants, qui sont pas forcément les matériaux du luxe, mais que tu peux rendre luxueux, enfin, avec une compréhension du luxe qui est très différente de la matière précieuse, de l'ostentatoire, etc.
Excellent. T'as de la chance quand même, hein, d'avoir vécu ça. Après André Putman, qu'est-ce que tu fais ? Raconte-nous.
Après André Putman, j'ai eu encore... j'ai souvent eu dans ma vie des petits moments, des petits mois de flottement où tu te remets en question, tu te demandes ce que tu vas faire, etc.
Et t'avais pas une vision de ce que tu voulais faire de ta vie à cette époque-là ? T'étais encore dans la période de recherche de toi-même, non, j'imagine ?
Un peu, je pense que j'avais toujours j'avais différentes envies et j'arrivais pas forcément à voir comment les hiérarchiser, comment leur donner de la place. Mmh. Je voulais aussi dessiner, j'ai toujours caressé le rêve d'être peintre, tu vois, donc ça n'avait rien à voir. J'avais envie de travailler avec des éditeurs, avec des industriels pour évidemment voir mes objets dupliqués par milliers. Et à la fois, j'avais une sorte d'objection de conscience aussi à ce niveau-là, déjà, hein, depuis toujours, en fait. Donc, j'ai pris quelques mois pour réfléchir. Et en fait, je me suis dit que j'avais absolument pas envie de travailler seul. Et j'avais un ami de l'école qui s'appelle Franck Fontana, avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Enfin, je m'apercevais que je le citais souvent en exemple. Je disais, ah, en fait, ce qui serait génial, c'est de bosser avec Franck. Et il se trouve que Franck était installé à Barcelone. Donc je suis parti le voir en 2006 pendant les vacances, sans rien lui dire, pour passer quelques jours. Et en fait, très rapidement, on s'est mis à parler de design, de procédés de fabrication, et on a commencé à envisager de travailler à deux. Mmh. Et ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'on a... Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas travailler ensemble ? On fait un test, on essaie de monter un studio... moi à l'époque j'en avais absolument ras-le-bol de Paris, je venais de passer 11 ans à Paris entre mes études, mon début d'activité professionnelle. J'avais envie de soleil, de connaître une autre culture, enfin de baigner dans autre chose, donc c'était assez évident. Et la démarche qu'on a eue était de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et moi j'étais assez alerte à ce niveau-là, puisqu'en fait mes parents sont architectes, urbanistes, paysagistes. Je les ai vus travailler toute mon enfance en indépendant, et je m'apercevais, alors ça c'est une projection de ma part parce que je connais pas leur ressenti, mais qu'ils avaient surtout fait des études d'impact, des études sur le paysage qui étaient pas créatives mais qui étaient liées à la protection de l'environnement. Et une fois de plus, donc c'est ma projection, je me mettais à la place de mon père, je me disais mais quand même, du coup il a pas fait d'archi, il est passé à côté, puisqu'évidemment si tu fais bien ton job, on te rappelle toujours pour la même chose. Donc ça peut être très déterminant. Et du coup, notre démarche a été de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire ? Donc on a fait une liste de clients pour qui on a fait des cahiers d'idées, gratos. On a passé des mois et des mois à faire ça et à aller les contacter et leur présenter. Et à côté, on s'apercevait qu'on parlait tout le temps de procédés de fabrication, d'artisanat. Donc on s'est dit, en fait, on a envie de faire ça et on le fera même si c'est pas du tout lucratif. Ce sera notre projet passion. Et on l'a appelé matière à penser. Donc on a défini ce projet qui consistait en fait à ne pas dessiner un objet et se demander ensuite comment on va le réaliser, ce qui arrivait très souvent, même à l'école, même à l'ENSI, malgré la présence des ateliers. Moi, je m'apercevais que j'étais très focalisé sur le concept, sur l'usage, sur l'innovation. Et à la fin, on se disait, ah ben, on pourrait le faire en métal ou en porcelaine ou en bois ou je ne sais quoi. Et effectivement, tu peux un peu tout faire avec tout, mais en fait... tu peux trouver beaucoup plus d'intelligence aussi à partir des outils, à partir de l'histoire d'une entreprise. Moi, ça m'a permis aussi de défaire des idées un petit peu naïves que je pouvais avoir sur la production industrielle ou sérielle. En fait, tu t'aperçois souvent, tu es dans des petits ateliers. Ils ont parfois une machine que personne d'autre n'a, donc qui serait pas duplicable, et je trouvais ça très intéressant. Et du coup, notre projet, c'était de partir de ces observations et faire des propositions qui n'aillent pas forcément qui ne collent pas forcément au marché de cette entreprise. Donc on a travaillé avec différentes entreprises une qui s'appelle Papa Bubble, qui est basée à Barcelone, qui est une confiserie, qui fait des bonbons, donc. Et on leur proposait de travailler le sucre comme si c'était du verre. Donc on faisait une analogie entre deux matières assez proches, et du coup on soufflait, on moulait, on coulait du sucre, etc. Bon là, j'ai fait une explication très longue sur un projet très ancien.
Mais c'est putain, c'est impressionnant. Et en fait, t'es quoi aujourd'hui? T'es designer? Enfin, à l'époque, t'étais designer et t'es toujours designer finalement. C'est comment tu t'identifies en fait?
Oui, toujours designer. Après, designer, c'est un mot qui est tellement large maintenant.
Ça veut tout dire et rien dire. Ouais.
Voilà, disons que je m'intéresse à la production. Je me suis aperçu rapidement, j'ai pas mal bossé après avec des éditeurs, enfin j'ai eu différentes expériences, et ce qui a fait qu'à un moment donné j'ai eu envie de travailler différemment, c'est que je trouvais plus trop de sens dans le fait de dessiner un objet, le proposer à un éditeur ou à un industriel pour qu'il le produise, et pas forcément faire tous les suivis de fabrication, pas forcément connaître les ateliers.
Alors que c'est ça qui t'intéresse, toi.
Ça qui m'intéresse, et je me sentais éloigné. Parfois, on recevait des protos qui correspondaient pas à ce qu'on avait fait, alors qu'on aurait pu bosser en collaboration. Enfin, les choses n'étaient pas forcément fluides.
Parce que après Barcelone, qu'est-ce que t'as fait derrière? T'as fait énormément de choses. Hein. On va pas se mentir.
Alors avec le projet dont je parlais juste avant, de Matière à penser, on a gagné plusieurs prix. On a gagné le prix de la Villa Noailles. De Design Parade, le Grand Prix Design Parade en 2007. La même année, on a gagné les Audi Talents Awards. Et la même année, on a été lauréat de la résidence de la Villa Kujoyama.
Un animal de compétition quand même, hein. C'est assez impressionnant.
Cette année-là, on avait une bonne étoile.
Ouais.
Et tout ça avec le même projet, donc c'était bien parce que ça nous a permis de nous concentrer là-dessus.
Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte de gagner autant de prix?
Moi, je suis quelqu'un qui vit dans le doute, dans un doute permanent, et je pense que ça changera pas. Donc, ce que ça m'a apporté souvent d'avoir ces prix, c'était de me conforter dans ma démarche, de rencontrer des personnes qui allaient m'ouvrir des portes ou même parler de mon projet différemment et me permettre de le réinvestir autrement. Non, c'est énormément de rencontres. Ouais. La Villa Noailles, par exemple, m'a permis de rencontrer énormément de personnes auxquelles j'aurais même pas pensé, en fait, tu vois.
Et ça te donne donc une légitimité, une crédibilité.
Tout à fait.
Ça t'ouvre des portes.
Oui.
Et derrière, comment ça se transforme? Ça se transforme en d'autres projets, en d'autres clients, etc.
C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, les Audi Talents Awards aussi nous ont permis de faire des productions derrière. Donc, t'as souvent une enveloppe financière. La Villa Kujoyama, c'était une expérience extraordinaire.
T'es parti au Japon.
C'était un de mes rêves depuis ma plus tendre enfance, puisqu'en fait, on fait une boucle. J'avais un voisin japonais dont le grand-père a inventé le Yosekan Budo.
D'accord.
C'est qu'il y a un art martial.
D'accord.
Et qui me fascinait parce qu'ils avaient le balcon au-dessus de chez moi, et en fait ils laissaient tomber régulièrement des morceaux de costumes d'enfants en papier que je trouvais magnifique, hyper simple, et donc voilà, tu vois, j'avais un rêve lié au Japon depuis très longtemps. Mais l'envie de partir à la Villa Kujoyama était vraiment liée à l'artisanat japonais. Et moi, m'a permis de découvrir une autre échelle et un autre rapport justement à ce qu'on appelle l'industrie, mais qui n'est pas forcément industrielle une fois de plus. Tu vois, d'aller rencontrer des personnes qui vont produire, je sais pas, des tasses, une boîte de thé ou autre, qui en produisent quand même des milliers d'exemplaires par an. Et en fait, qui produisent à domicile, dans deux pièces, au sol, pas du tout comme on travaille nous, en étant extrait du sol. Et tu vois, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir sur pourquoi pas faire soi-même. Et le fait qu'il n'y ait pas, en fait, on allait rencontrer des artisans. On était parti avec l'idée assez naïve de collaborer avec eux, et on se retrouvait face à des artisans qui sont eux-mêmes designers, en fait, et qui font les choses extrêmement bien. Et du coup, cette résidence rapidement est devenue surtout une longue découverte et d'une quantité d'artisans extrêmement riches et variés, mais avec lesquels on n'a pas forcément sorti des objets. On a fait petites collaborations, des tests, des essais, mais c'était plutôt un ouvroir et une grande inspiration.
Ça a duré combien de temps ?
6 mois. Donc 6 mois, c'est long, mais c'est assez court
mais
aussi.
C'est court en même temps. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience culturellement, dans l'échange ? Parce que les Japonais sont quand même très différents des Occidentaux, etc. Est-ce qu'on, quand on est designer, artisan, est-ce qu'on parle le même langage ? Alors, est-ce que tu parles japonais déjà ?
Absolument pas.
Ouais. Comment vous communiquez ? Parce que les Japonais parlent pas souvent anglais.
C'est vrai. En fait, en général, ils le comprennent quand même. Mm-hmm. Mais ils sont trop timides ou ils veulent pas,
ils veulent pas
être imparfaits, du coup ils préfèrent ne pas parler.
C'est vrai.
Mais on peut leur parler, mais c'est un peu à sens unique. Mmh. On dessinait, on faisait des gestes. Mmh. En fait, ça même, c'était assez marquant, en fait, assez frappant de voir que on repartait sur des choses très essentielles liées au métier et qui disaient qu'il y avait pas, on n'allait pas se raconter nos vies. Mais pour dessiner, pour parler de projet, c'était assez fluide.
Mmh. Donc 6 mois là-bas, 6 mois de découverte et de pur bonheur, je pense.
C'est ça,
ouais.
D'inspiration totale. Évidemment, il y a eu un moment où je voulais rester vivre là-bas.
Ah, tu m'étonnes.
Ensuite, je suis parti au Mexique juste derrière. Donc tu vois, rien à voir. J'avais pas envie de me reposer directement à Barcelone ou en France. Et j'ai travaillé avec d'autres artisans au Mexique, donc rien à voir, puisque c'est une culture absolument différente.
Mmh, ouais.
Et là-bas, j'ai travaillé avec de l'obsidienne, qui est de la lave vitrifiée, et avec de la palme, en travaillant en relation étroite avec des artisans auxquels j'ai donné en fait des choses à faire.
Mmh. Alors attends, tu vas nous dire ce que c'est la lave vitrifiée et la palme, c'est quoi exactement ?
Alors l'obsidienne, c'est de la lave qui est sortie tellement vite de terre qu'avec le choc thermique, j'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est ce que j'ai toujours compris de cette matière, avec le choc thermique, se vitrifie et donc elle a pas le temps de devenir. C'est pas un magma, c'est quelque chose de. Quand tu prends, c'est une sorte de roche, mais qui s'apparente vraiment à du verre, qui est noir, d'un noir très profond. Mmh. Qui peut contenir des impuretés qui font sa beauté, c'est-à-dire que tu en as avec des arco-iris, avec des arcs-en-ciel. Enfin voilà, elle peut avoir plein d'effets très différents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la croûte, sur la partie extérieure, tu as des phénomènes qui peuvent ressembler à du métal, à du bois, qui rendent cette matière vraiment magique.
Mmh. Vous en faites quoi de cette matière ? Vous en faisiez quoi à l'époque ?
Moi, j'avais fait des boîtes, des sortes de bijoux, en fait, c'était des formes symboliques qui avaient des fonctions domestiques, disons, mais qui étaient des fonctions assez légères.
Ouais.
Voilà.
Très bien. Et l'autre, la palme, c'était.
Et la palme, en fait, il s'agit d'une palme qui s'appelle Jipi, donc Ripi en espagnol, qui vient de la région de Mérida, dans le Yucatan. Et qui est un lieu dans lequel on fait des chapeaux qui s'apparentent aux chapeaux de Panama,
ouais.
Qui eux sont faits en Équateur. Et donc c'est un des tout petits palmiers qui poussent au ras du sol, qui produisent donc de la palme. Et en fait cette palme est défibrée avec des petites aiguilles, tu la fais sécher et ensuite on passe dans des cénotés. Les cénotés c'est des cavernes. Dans lesquelles l'hydrométrie est constante. Mmh. Donc ça permet de réassouplir la fibre et de pouvoir la tresser. Et ensuite, quand tu vas la repasser à l'extérieur, elle va ressécher et garder sa forme.
Excellent. Et tu restes combien de temps là-bas ?
Et je suis resté une année là-bas.
D'accord.
Ensuite, je suis rentré à Barcelone. Je me suis mis à travailler avec des éditeurs, notamment avec Moustache. Pour qui j'ai fait pas mal de projets. J'ai travaillé pour un festival qui s'appelle le festival Kiosco, qui était un petit festival à Barcelone qui mettait en relation des personnes qui avaient un tout petit commerce dans des grandes portes cochères qui, une fois les carrosses et les chevaux disparus, avaient été coupés en deux. Et donc, tu as des petits commerces à l'intérieur. Et moi, je travaillais avec une bijoutière. Donc, j'ai voulu lui rendre service. Et dans sa vitrine, en fait, je trouvais que les bijoux étaient un peu perdus, parce qu'ils sont tout petits, et sur ces étals, c'était un petit peu perdu. Donc, j'ai décidé de faire des petites lampes alcôves qui étaient faites d'une seule feuille de papier avec un pli assez simple, une ligne de LED, et ça me permettait de faire une lampe. Donc cette lampe, je l'ai communiquée sur Internet. Et j'ai eu une prise de contact d'un éditeur qui s'appelle Objecton, qui est un éditeur belge, qui me demandait de réaliser la lampe. Alors cette lampe, je l'avais déjà promise à Moustache. Du coup, je dis, en fait, ça n'est pas possible. Et au fil des discussions, on a parlé d'un matériau que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle le salpin, qui est une sorte de matériau réalisé à base de copeaux de cuir recyclés. Donc on utilise les déchets de l'industrie du cuir qui sont broyés, qui vont être mélangés à du latex naturel, qui vont être laminés. Mmh. Et ça donne un matériau qui s'apparente à du liège, en fait, mais qui fait de cuir. Et donc, il me propose de partir en résidence sur une île qui s'appelle Isola Comacina, sur le lac de Côme en Italie, pendant une semaine avec ce matériau et de chercher à faire autre chose. Et puisque tu aimes le pli, puisque tu aimes le galbe et les matières souples ou semi-rigides, on va dire, je te file une petite carte blanche. Et donc, je me retrouve pendant une semaine sur cette île qui est à 50 mètres de la rive, mais tu es complètement isolé et concentré, donc au mois de mars, donc il est assez froid, dans un paysage absolument spectaculaire. Et en fait, je réintégrais une résidence qui avait été mise en place dans les années 30. Je fais une petite digression, mais cette île appartient à la Belgique pour une histoire rocambolesque liée à la Première Guerre mondiale, donc ça a été un cadeau. Et donc l'idée, c'était de remettre en route cette résidence, et donc j'étais le premier résident.
Extraordinaire.
Voilà. Et donc je me retrouve là-bas, je réalise des petites coupelles, des lampes, des objets plutôt domestiques. Et c'était intéressant parce que je me retrouvais dans un espace complètement vide. Donc c'était aussi assez inspirant de se dire, je vais juste meubler cet espace dont la qualité pour l'instant est justement d'être vide. Donc comment faire peu et bien. Et il se trouve que mon petit frère Nicolas était en vacances de l'autre côté du lac, ce qui est absolument improbable. Et il vient me rendre visite dans ma grande solitude, parce qu'en fait, les journées sont assez longues. Et il est arrivé avec un sac, avec des emplettes de voyage assez classiques. Et je trouvais ça scandaleux, ce sac en plastique. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, attends, je vais te faire un sac. Et en fait, on y arrive. C'est comme ça que l'idée de créer Archipel est née.
Génial.
Donc là, c'était en 2012. Ensuite, je me suis remis à d'autres activités. Et effectivement, comme tu soulevais cette question tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir gagné un projet ? Souvent, ça m'apportait non pas de le développer, mais d'en avoir un autre et ainsi de suite. Donc, ça comblait mes envies créatives, mais effectivement, je passais tout le temps d'un projet à l'autre. Et en fait, il a fallu attendre 2015 pour que je refasse un autre sac. À ce moment-là, c'était pour ma compagne de l'époque. Et elle a porté ce sac et le sac a eu du succès, donc c'était pour moi un signe. Enfin, j'avais des demandes tout simplement, donc voilà. Mais pour revenir au fondement, en fait, c'est assez important. Effectivement, à aucun moment je me suis dit que j'allais entreprendre dans la mode, justement. À aucun moment je me suis dit je vais devenir maroquinier ou je vais faire des sacs ou quelle légitimité j'ai à faire du cuir, en tout cas à ce moment-là. Et en fait, comme j'étais donc si on revient à Isola Comacina avec les moyens du bord et avec des feuilles à plier et à maintenir en forme, je ne sais pas coudre, j'ai pas de machine à coudre et comment je fais de cette contrainte une force. Du coup, il s'agit de sacs sans couture.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'as rendu à cette société d'édition qui t'avait proposé cette résidence ?
Des coupelles, des lampes, des éléments qu'on a présentés, qu'on devait présenter à Milan, au salon du meuble de Milan juste derrière. En fait, on a estimé qu'on avait encore besoin de temps pour faire les développements. Et finalement, le projet n'a pas abouti comme souvent.
J'ai l'impression que c'est souvent le cas quand même. Il y a beaucoup de projets qui sont aboutis, mais qui sont commencés mais qui n'aboutissent pas. C'est propre à ce milieu-là, au design.
Je sais pas. Je pense. On dit c'est le milieu de l'édition. Donc je pense que là, il y a une analogie assez forte avec le milieu de l'édition littéraire.
Pourquoi ce n'est pas abouti ? C'est parce qu'on se lasse du truc. C'est trop long.
Je pense qu'il y a un premier phénomène, c'est à partir du moment où tu reportes le projet, à l'éditeur qui lui-même est mon client en fait et qui est dans des émois de nouveautés, de séduction. Enfin, moi, j'ai vraiment noté quand on reporte le projet, qu'on se dit bon, bah, on le présente pas à Maison et Objet cette fois, mais la prochaine session. Entre temps, l'éditeur va avoir d'autres propositions. Et ton projet, 6 mois plus tard, est déjà vieux, il est déjà digéré et il en a plus forcément envie, ou alors il est parti sur d'autres choses. Et je pense que ça, c'est très humain et inconscient. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et l'autre raison, en l'occurrence à cette époque-là avec Objecton, c'est que lui voulait absolument le découper au laser, ce qui crée une sorte de suie qui sent pas forcément bon puisqu'on est sur de la peau. Et moi, je voulais investir dans des emporte-pièces qui étaient somme toute pas si chères, mais effectivement, ça nécessitait une prise de risque. Et en fait, c'est cette prise de risque qui n'a pas eu lieu. Voilà. Pour des raisons aussi qui m'échappent peut-être, des raisons de marché, de doute. Voilà, après on ne sait jamais tout.
Juste une autre question, après on continuera, hein, parce qu'on a encore plein de choses à voir. Mais sur le monde de l'édition, tu sais, c'est un podcast qui se veut un peu pédagogique, mais le monde de l'édition, comment ça fonctionne en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Qu'est-ce qui, et comment il travaille, comment il fonctionne? Alors il travaille à chaque fois avec des designers, d'après ce que je comprends. Il produit en série, enfin il propose sur les salons, il produit en série quand il y a des commandes, et ça marche comme ça en fait. Et
absolument.
Ouais. Il rétribue le designer.
L'éditeur, donc contrairement à, imaginons Tolix, tu vois quelle est cette marque, qui est une marque française qui a été fondée par Xavier Pochard, qui a inventé le Galva et qui ces tabourets qui ont un aspect peut-être un peu militaire, qui sont en acier, embouti, etc. Ici, on est sur une marque. Enfin, moi, j'adore ce genre d'entreprise et d'aventure. On est sur une marque familiale. Historique, lié à des outils, à un savoir-faire. Donc, s'ils font appel à des designers, c'est pour répondre au cahier des charges techniques de l'entreprise et faire rayonner l'entreprise. Donc là, moi, je parlerai d'une marque dans ce cas-là. Je préfère expliquer cet exemple pour mieux expliquer éditeur juste derrière. Un éditeur, en général, c'est une maison d'édition à une ligne éditoriale, mais elle se laisse plus de liberté dans le choix des techniques et dans les personnes qui vont produire, elle n'a pas forcément son outil de production. Donc, à l'image de l'écrivain qui va envoyer son manuscrit, l'éditeur va décider de le faire imprimer. Donc, va passer par une imprimerie, récupérer les bouquins et les distribuer. On est exactement sur ce schéma-là. D'accord. Donc, un éditeur, par exemple, comme Moustache, qui est un très bon exemple, ou comme Ligne Rosée, qui est un des plus grands éditeurs en France, eux reçoivent des idées en continu de designers. On leur envoie des esquisses. Ils ont envie de les développer. Ils voient derrière comment les développer. Ils font appel à un réseau d'ateliers, de manufactures. Ils font des chiffrages. C'est très important. On les présente ensuite en salon. Et en fonction des ventes, en fonction du succès du produit, tu vas être rémunéré. Donc en général, il n'y a pas de fixe et on est rémunéré en royalties. Et tu vas toucher des royalties sur les ventes. Voilà.
D'accord.
Pour résumer. Donc effectivement, c'est risqué, mais en fait, c'est risqué pour tout le monde puisque l'éditeur lui-même paie les salons, toute la promotion, etc. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es designer, tu es souvent frustré parce que déjà, tu as envoyé 40 idées. Au final, on en a développé 2. Elles passent en salon et elles peuvent disparaître très vite. Mais maintenant que je suis passé aussi de l'autre côté, parce qu'avant, évidemment, comme d'autres designers, je me plaignais beaucoup de cette chose-là, parce que tu le vis de ton endroit. Mais maintenant que je produis et distribue moi-même, je vois à quel point c'est complexe et à quel point toute la partie de communication, de promotion, de distribution est un travail à la fois lourd et absolument... Enfin, c'est le nerf de la guerre, quoi. Voilà.
Très bien. Donc après cette expérience-là, donc là on est en 2015, hein, on revient à 2015, donc tu lances vraiment Archipel.
Donc j'ai eu envie de lancer Archipel et naturellement je me suis rapproché de fabricants. Je suis allé faire fabriquer des emporte-pièces aux emporte-pièces du Marais à Paris. Je me fournissais en cuir aussi pas loin de la place de la République, pareil pour les boutons, etc. À ce moment-là, je vivais plus à Paris, mais tout d'un coup, j'étais séduit par l'ensemble de ces métiers et ces savoir-faire qui étaient encore présents dans la capitale.
Intramuros, ouais.
Et c'est peut-être un peu anecdotique, mais quelqu'un m'avait parlé du sens profond du mot économie. Pour moi, économie, c'était un peu un gros mot qui signifie qu'en fait, tu vas faire justement des économies et faire produire je ne sais où pour toujours tirer les coûts vers le bas, etc. Et en fait, j'essaie de pas dire de bêtises, mais économie, ça vient de oikos et nomos, qui signifie la gestion de la maison. Donc en fait, c'est intéressant parce que tu as un double sens qui signifie à la fois que tu vas être parcimonieux et aussi que tu vas, enfin, si tu entends le mot maison dans le sens du mot foyer et du rapport en fait à la terre et au territoire, il s'agit bien de gérer la richesse ou la ressource territoriale. Je pars un petit peu loin, mais c'est juste pour dire que ça me séduisait l'idée de venir travailler, ancrer une activité économique dans un lieu précis. Donc j'ai eu envie d'appeler l'entreprise Archipel et Archipel Paris et de pouvoir revendiquer
cette appartenance à cette ville.
Voilà, tout à fait.
Et Archipel, on est d'accord que ça vient de cette petite île de Côme.
Il y a trois raisons. Ça vient de cette île d'Isola Comacina. Ça vient aussi de Archipelé, l'architecture de la peau, et également d'une volonté de faire de cette discipline du sans couture une discipline de création qui soit pas uniquement dédiée à la maroquinerie, mais qui puisse permettre de faire du luminaire, du mobilier, etc. Donc dans le futur, j'aimerais développer une activité plurielle, d'où les archipels.
D'accord, très bien. Alors raconte-nous un petit peu les différentes étapes de la croissance d'archipel ou de l'évolution d'archipel, quels ont été les grands milestones, j'aime bien utiliser ce mot-là.
Le premier, c'est que j'ai décidé de faire un crowdfunding avec KissKissBankBank. Donc, je me suis occupé de faire les premiers produits, une première collection, de faire des shootings, de préparer toute la com pour ça. Donc, ça, c'était 2015-2016. J'avais des ambitions très humbles, je dirais. Donc, je briguais 5000 euros qui me permettaient de me renflouer en fait sur les investissements d'outils. Mais qui me permettait surtout, une fois de plus, de me réconforter dans la pertinence du projet. Et voilà, tout simplement.
Ce doute que tu as en toi, tu penses qu'il... Enfin, toi, il était nécessaire pour avancer, en tout cas. Ça te permet de faire plein de choses. Ça te permet de faire ce crowdfunding, ça permet de présenter des concours, etc. T'arrives à t'en séparer? T'arrives à atténuer ce doute-là aujourd'hui ou c'est encore très prégnant?
Oui, tout à fait. Disons que le doute, je pense, fait partie du caractère, donc est toujours là, mais à d'autres niveaux. Donc, je suis plus du tout, je doute plus du fondement du projet. Je vais plutôt avoir des doutes sur est-ce qu'il faut faire des nouveaux produits ou pas? Est-ce qu'il faut plutôt être en monoproduit et renforcer cette chose-là?
D'accord.
Plutôt sur des orientations stratégiques plus profondes.
D'accord. Et donc, ce crowdfunding, donc, c'est un succès. Qu'est-ce qui se passe derrière?
C'est les premières commandes, les premiers retours, les amis d'amis qui passent aussi des commandes petit à petit. Et derrière, surtout, j'ai fait appel à mon frère, celui pour qui j'avais fait le premier sac. Qui lui a une coloration plus marketing et commerciale, et je lui ai demandé de m'aider pour tout ce qui était complètement obscur pour moi, donc faire un business plan, enfin voilà, voir comment rendre les choses réalistes, me rendre compte que pour pouvoir tout simplement embaucher quelqu'un au SMIC, il faudrait déjà que j'ai un chiffre d'affaires de 80 000 euros. Et en fait, quand t'es habitué à bosser en indépendant, en étant à la maison des artistes, tu vois, moi j'arrivais à vivre avec 25 000 euros par an. Donc des sommes comme 80 000 me paraissaient complètement délirantes.
Démesurées, ouais.
Voilà. Mais c'est juste parce que voilà, j'étais pas entrepreneur dans l'âme et je me rendais pas compte
que ça coûte cher.
Voilà. Et que c'est autre chose, en fait, on parle d'autre chose.
Ouais. Ouais. Et donc, lui, il t'a rejoint complètement dans l'aventure ou comment?
Il m'a épaulé.
Il t'a épaulé.
Il avait d'autres projets, donc il m'a épaulé. Il se trouve que j'ai découvert l'existence de l'ADC, donc au-delà du cuir, à ce moment-là.
Ouais.
Et pareil, je me suis dit, c'est formidable puisque moi, j'ai toute la partie design. Mais ce qui me manque absolument, et ce sur quoi, en fait, je dois tout simplement décomplexer et arriver à mettre en place des actions, des outils, c'est les ventes, la présence sur les salons, etc. Et donc, j'ai postulé à Au-delà du cuir. Mmh. Donc, Au-delà du cuir, pour présenter brièvement, c'est une association liée à l'interprofession du cuir. Ouais. Qui accompagne des jeunes, c'est un incubateur en fait, mmh. qui accompagne les jeunes entreprises, principalement en maroquinerie et en chaussures, mmh. pour le développement de l'entreprise.
D'accord.
Et qui nous propose de manière individualisée des coachings en commerce, collection, numérique, mmh. enfin les sujets sont extrêmement variés.
Et t'as intégré donc l'incubateur de ADC très rapidement dans l'aventure Archipel?
Alors non, en fait je les ai rencontrés, j'ai rencontré l'ancienne directrice, il me semble en 2016, elle m'a dit que j'étais pas prêt, donc je me suis préparé, j'ai représenté la chose devant un comité en juin 2017, mmh. avec mon frère, on a été pris, mon frère est parti sur d'autres projets et j'ai continué l'aventure en solo.
D'accord,
voilà,
très bien. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait, concrètement, en quoi ça t'a permis de passer un gap?
Déjà, ça te permet de rencontrer d'autres entrepreneurs qui n'ont pas forcément le même background, pas forcément la même histoire, d'échanger sur des problématiques et leurs solutions.
Ouais.
Ça permet d'avoir un rythme, d'avoir des challenges au niveau de... Enfin, voilà, tout simplement d'avoir des objectifs. On est accompagné financièrement aussi, donc ça c'est très important parce que quand tu fais tes premiers salons, t'es absolument pas, tu rentres pas dans tes frais. Hein. Mm-hmm. Voilà, donc moi ça m'a permis de participer à Maisons et Objets, à Première Classe Versailles, Première Classe Tuileries, à commencer à avoir des clients à l'international. Du coup, maintenant on est vendu à Chicago, à Hong Kong, en Norvège, enfin j'en
Génial.
Passe, mais on n'a pas énormément de boutiques, on doit avoir 25 boutiques partenaires, mm. mais un petit peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on est beaucoup moins développé sur Paris et en France qu'à l'étranger.
Ouais. Quelle est la réaction des clients, justement? Qu'est-ce qui plaît dans Archipel, d'après toi?
Ce qui plaît, c'est d'abord le design. Mm. C'est la simplicité de production. Enfin non, c'est pas ça en fait. C'est la simplicité visuelle et élémentaire de l'objet. Et ce qui plaît dans un second temps, c'est toute l'histoire. Puisqu'en fait, les sacs sont produits avec une seule pièce de cuir en tannage végétal qui est galbée, pliée et dont la forme est maintenue par la hanse. Donc la hanse, avec un petit système de boutons de colle, vient tirer sur le fond du sac. Ça nous permet aussi d'avoir les réglages de longueur de hanse à l'intérieur, donc de jamais dénaturer la forme de nos sacs. On a aussi un principe d'ouverture et de fermeture qui joue avec la flexibilité du cuir. Donc la plupart de nos clients sont séduits en fait par
la simplicité et la complexité en fait du
exactement
de l'objet.
Exactement. Et ouais. Moi je parle souvent de principe intuitif pour l'ouverture, mais en fait qu'est-ce que l'intuition? Donc finalement, tu finis par trouver et par reproduire le geste, mais il y a quand même un petit apprentissage sur le geste d'ouverture et de fermeture du sac.
D'accord. Trop bien. Et donc toi, tu travailles avec du cuir végétal. Pourquoi ce choix du cuir végétal?
Alors, il y a évidemment des raisons nombreuses. Mais
déjà,
sans...
qu'est-ce que c'est le cuir végétal?
Exactement.
Ouais.
On dit souvent, on dit cuir végétal, on dit du végé. En fait, il s'agit de cuir à tannage végétal,
ouais,
et c'est vraiment
ça.
Une contraction de dire cuir végétal. Donc, il s'agit bien de cuir, il s'agit bien de peau, c'est de la peau animale, de la peau de bovin. Moi, en l'occurrence, j'utilise du collet, donc c'est la partie supérieure. Et il s'agit du... En fait, le mot tannage vient du mot tanin. Mm. Le tanin, c'est un élément qui est présent dans certains arbres, qui sont les arbres tanniques, comme le châtaignier, le quebracho, le chêne, le mimosa et bien d'autres. Et en fait, il se trouve que pour passer la peau animale d'un élément justement animal, organique, qui mm. peut être soumis au développement de bactéries et à la putréfaction, mm. donc le rendre imputrescible et stable, on passe par ce procédé qu'on appelle le tannage. Il s'agit de baigner le cuir dans des tanins, qui ont des propriétés physiques et chimiques naturelles qui vont stabiliser la peau. Mmh. Donc c'est comme ça qu'on passe de la peau, justement, à du cuir. Pourquoi, à notre époque, on parle de tannage végétal et pourquoi on le précise? Parce qu'en fait, ce tannage a été supplanté depuis un peu plus d'un siècle par le tannage au chrome, au cristaux mmh. de chrome, qui représente 90% du marché, même un petit peu plus.
Parce qu'avant, il y a 100 ans, c'était uniquement du tannage végétal.
Oui, bon, il y a énormément de techniques. Mmh. On peut aussi tanner à la salive. C'est ce qui se fait en Argentine.
La salive.
Et là, on appelle ça du cuir cru. Donc, c'est du cuir qui est... On passe, en fait, comme la salive, tu sais, a des propriétés antiseptiques.
Oui.
Elle a aussi des propriétés de stabilisation pour ouais. la peau.
Mais comment il récupère la salive, là, c'est intéressant, ça.
En fait, tu travailles le cuir avec l'artisanat lié à cette technique qui s'appelle la talabateria. Mm-hmm. Et c'est tout un artisanat dédié au monde équestre. Et donc, en fait, il s'agit de petits ouvrages. Je parle pas de faire une selle, hein, mais il s'agit de tous les petits ouvrages qui permettent de... C'est le... Comment on appelle ça? L'arnachage.
Ouais, voilà. L'arnachage, ouais. Mm.
Donc c'est des ouvrages aseptiques qui permettent de passer une bride ou une sangle par la bouche ou de s'humecter les doigts et de venir stabiliser la peau. Évidemment, il s'agit aussi de peau travaillée dans des épaisseurs assez fines
oui.
qui permettent une imprégnation rapide.
D'accord.
Bon, là, je parle d'un procédé qui est un procédé antique,
ouais.
mais c'est juste pour dire qu'avant, il ne s'agissait pas uniquement du tannage végétal. Cette stabilisation, elle se fait aussi avec des excréments,
ouais.
des endroits où c'était des excréments canins, du pigeon, enfin, il y a énormément de procédés.
Mm-hmm.
Mais disons que le procédé assez noble et antique, c'est le tannage végétal.
D'accord.
Et pour que tout le monde puisse l'identifier, si une partie qui n'a toujours pas été remplacée, c'est les semelles sur des belles chaussures italiennes ou anglaises, la semelle en cuir. Même française, hein, d'ailleurs, les semelles en cuir sont faites en cuir à tannage végétal.
D'accord. Versus le tannage au chrome.
Voilà. Donc le tannage au chrome, c'est un tannage qui a comme avantage d'être beaucoup plus rapide.
Mmh.
Donc au lieu de passer plusieurs semaines ou plusieurs mois dans des cuves qui s'apparentent d'ailleurs à des cuves de vin, en quelques jours parfois ou à peine une semaine, tu peux sortir un produit. Et ça permet aussi d'avoir une variété de qualité de cuir plus ample. Donc des cuirs qui vont être plus souples, etc.
D'accord. Et donc toi, le choix du cuir végétal...
Moi, j'ai pas du tout fait ce choix-là ouais. pour deux raisons. D'une part, par conviction et par éthique. Et d'autre part, parce que les sacs que je produis sont des sacs que je voulais... Je voulais que la forme reste la même, que le sac soit plein ou vide. Donc le fait de travailler sans couture, si tout d'un coup j'avais un cuir qui se tient pas, qui serait un cuir souple, il aurait tendance à s'effondrer, le sac aurait tendance à s'ouvrir. Donc j'avais vraiment besoin de
quelque chose de très rigide. Ouais.
Voilà, de rigide et d'épais.
Mmh. D'accord. Et quand tu parles de conviction, pourquoi? Parce que le chrome, c'est décrié, mais pourquoi c'est décrié le chrome?
C'est décrié puisqu'il y a eu des problèmes d'allergie avec certains ouvrages. Et comme la plupart des produits en cuir, on les porte quand même généralement contre la peau ou assez proche du corps. Voilà, il y a un sujet sensible à ce niveau-là. Après, je suppose que en France et en Europe, comme on a des normes assez fortes...
Les fameuses normes REACH, non, c'est ça? C'est toujours...
Je me souviens pas, mais en tout cas, je sais que tout ça... est largement sous contrôle, donc il s'agit pas, voilà, je veux pas dire n'importe quoi. En tout cas, pour moi, il était beaucoup plus plaisant de revenir sur des matériaux de tradition.
Ouais.
Et il y a autre chose qui me séduisait, c'est au-delà du tannage au chrome. En général, quand on parle de tannage au chrome, on parle aussi de cuirs qui vont être corrigés, qui vont être protégés. Donc en fait, les cuirs sont recalendrés. Ils passent dans des rouleaux, et le grain qu'on voit souvent sur le cuir est du faux grain. C'est complètement fou, mais voilà, où ils sont plaqués. On vient les protéger pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Donc en fait, tu as une pellicule de polyuréthane ou d'autres matières qui sont quand même des matériaux pétrochimiques qui est posée sur le cuir, mais sur toutes nos chaussures, hein, sur vraiment la plupart des ouvrages en cuir. Je remets pas forcément ça en question. Dans certains cas, même, je trouve tout à fait honorable de savoir que tu as un produit qui va durer des années et qui va être complètement stable dans...
Qui va pas bouger, ouais.
Voilà. En revanche, je tenais à avoir une autre approche et je trouvais, en fait, très beau de travailler sur un matériau qui, pour ma part, n'est pas corrigé. Tu vois, en fait, les rides naturelles de l'animal. Le cuir va bronzer et se patiner dans le temps. Enfin, c'est toute une approche qui, pour moi, fait sens. Et qui va effectivement à l'encontre de nos habitudes, puisqu'en fait, notre habitude, c'est quoi? Si je prends l'exemple d'un téléphone qui est brillant dans son glacis lorsque tu l'achètes, Je parle de moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez universel. Il va commencer à se rayer et en fait, t'as une frustration énorme où t'as l'impression vraiment que l'objet va vers sa perte, est en train de se dégrader. Et au bout d'un moment, t'as juste envie qu'il disparaisse et de le remplacer au plus vite. On parle de notre société, voilà. Et je trouvais plus beau de réinvestir des notions de patine qui sont réelles avec ce cuir-là et de se dire, ben non, le cuir comme mes rides, comme mon visage, va changer dans le temps. Et au lieu de vivre ça comme un drame, comme une perte, qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté un cuir qui était jaune safran au départ. Il commence à se patiner, il va bronzer avec les UV, s'oxyder aussi avec l'oxygène. Et la matière va évoluer dans le temps. Et en fait, cette impermanence et ce changement est extrêmement riche. Voilà.
Les gens sont sensibles à ça?
C'est complexe. C'est-à-dire que les particuliers sont absolument séduits par cette idée-là. Et moi, je vends à la fois en B2B et en B2C. Je n'ai absolument jamais eu de retour à part positif ou des questions plutôt de... comment dire, d'intérêt, ou est-ce qu'on protège le cuir ou pas, mais voilà, enfin des questions dans lesquelles tu sens beaucoup de complicité avec les clients, donc les clients directs, ça se passe très bien. J'ai plus de mal parfois à, entre guillemets, évangéliser les magasins avec lesquels je peux travailler, et je leur jette pas la pierre, parce qu'en fait, ce que je vis souvent avec eux, c'est leur anxiété vis-à-vis de leurs clients. Et effectivement, moi, quand j'envoie un sac à un client, il le reçoit, le sac est neuf. Donc, sorti de la boîte, il est impeccable et il va se patiner dans le temps. C'est pas du tout ce qui se passe en boutique. En boutique, ils vont avoir un produit qui est plus ou moins sacrifié ou qui, en tout cas, est mis en vitrine et qui va commencer à vivre qu'on le touche ou pas, puisque la lumière et les UV vont déjà le modifier. Donc, ça, parfois, ça peut poser quelques questions. Et ce qui est assez drôle, c'est que très souvent, on m'interroge sur les rides du cuir. J'ai même eu des clients qui voulaient tout renvoyer. Alors, je les rappelle et je leur explique, en fait. Mais c'est, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défaut. C'est juste qu'on n'est plus habitué. Et effectivement, cette ride, c'est la ride naturelle de la vache. Alors après, il y a des degrés dans ce qu'on peut considérer comme un défaut. Sur la vache, on a aussi des petites... des petites attaques d'insectes, un petit coup de barbelé qui a provoqué une cicatrice, etc. Moi, j'essaie, on a un temps dédié qui est assez important dans le placement des découpes des peaux, et du coup, j'essaie de tirer sur ces défauts ou de venir les placer à des endroits un peu moins visibles sur les sacs.
D'accord.
Mais j'ai une attention assez forte sur les placements des coupes dans la peau et j'essaie d'avoir un minimum de déchets et d'optimiser au maximum en fait la matière première.
Très bien. Parle-nous de ton processus créatif sur les sacs en particulier. Tu crées beaucoup de nouveaux produits ou pour l'instant tu veux vraiment rester sur quelques essentiels? Raconte-nous un petit peu comment t'as organisé ton offre et le processus créatif aussi.
Alors le premier processus a consisté, une fois le succès du premier sac, à le décliner en format. Donc je restais vraiment sur la même forme. Donc ça a fait naître 7 modèles, ce qui était déjà beaucoup trop. Et on avait beau me le dire au moment du crowdfunding, je ne l'écoutais pas. Et en fait, c'est vrai que j'aurais mieux fait de partir sur un ou deux modèles emblématiques que je pouvais pressentir comme étant des best-sellers, ce qui s'est produit. Parce qu'en fait, le numéro 1 et le numéro 2 sont les best-sellers. Et les autres sacs sont intéressants pour compléter l'offre, mais ce sont des niches. Ensuite, j'ai développé une autre collection que j'appelle les pincées, qui est encore une déclinaison du principe, de la pensée archipel, mais un petit peu différent sur l'ouverture, la fermeture et sur la forme. Et donc, en fait, je suis arrivé sur mon premier salon avec déjà 2 collections, ce qui était une erreur, puisque derrière, je devais gérer tout d'un coup 14 modèles de sacs, plus leur déclinaison de coloris. C'était une erreur, oui et non, c'était très bien. Mais le salon d'après, je me suis dit, on va faire une autre expérience. Et j'ai réduit mon offre à 5 sacs. Donc, j'ai gardé les 14 références sur le site, ce qui nous permettait aussi d'avoir une proposition
conséquente.
Voilà. Mais au niveau des magasins, je les ai plutôt orientés sur les best-sellers, sur les sacs qu'on vend le plus, donc le sac à main, le sac à dos,
Très bien. Et le sur le sur la production. Moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu de production parce que c'est quand même un vrai sujet. Comment tu t'organises? J'imagine qu'il y a des minimums de production ou peut-être pas forcément. Parle-nous de tout ça.
Oh là là, si tu savais.
C'est un vrai gros sujet là. On ouvre la boîte de Pandore. Attention.
En fait, j'ai tout produit moi-même jusqu'au mois de mars de cette année 2019. Ah ouais. Du coup, en termes de production, au tout début, j'étais vraiment dans une commande égale une production, très peu de stock. C'est moi qui allais découper les pièces, qui faisais les tranches, qui faisais les montages, etc. Il se trouve que les salons passants, j'ai plus de volume à réaliser, j'ai d'autres choses à faire, donc je dois me diviser entre énormément d'actions distinctes. Et surtout, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, j'ai l'impression de très bien maîtriser le process, mais peut-être que aller rencontrer un artisan qui va le faire différemment, qui va avoir des machines plus performantes, etc., va me faire passer un palier. Et en fait, moi, j'avais du mal à lâcher parce que j'aimais bien faire ça, parce que c'est aussi reposant, parce que tu maîtrises tout, parce que tout d'un coup, t'es pas en train d'envoyer des peaux je ne sais où pour qu'elles soient transformées, renvoyées, etc. Et j'avais aussi une sensibilité au niveau des transports et du bilan carbone que ça implique. Donc au début, très romantique, je trouvais ça extrêmement beau de prendre mon vélo, d'aller acheter mes cuirs, d'aller les presser et de rentrer à l'atelier et de les mettre en forme et de les envoyer. Là, je suis passé à une autre étape. Donc entre parenthèses, tout ça m'a quand même permis d'être labellisé fabriqué à Paris, ce qui est une réalité. Je fabrique encore à Paris. Mais il y a une partie de la production que j'ai dédiée à un atelier en France. Donc on est fabriqué à Paris et made in France. Qui me permet de répondre à mes plus gros clients. Et c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance énorme et du coup, je ne fais pas ce que font la plupart des entreprises, c'est-à-dire de faire revenir les produits
à Paris,
dans ton atelier avant de les renvoyer.
Ouais.
Donc soit je passe à l'atelier vérifier, mais en général même, je fais confiance
Et il envoie directement,
directement au client.
Au client.
Ouais.
Très bien. Et comment tu l'as trouvé?
Par l'intermédiaire de l'ADC. Voilà.
Of course. Très bien. Et d'après toi, là, sur les quelques années qui viennent de passer, ça a été quoi les plus grands obstacles, tes plus grands biais et comment l'ADC t'a aidé à switcher, à évoluer, à grandir?
Les obstacles, le premier obstacle, c'est l'éparpillement et d'arriver à donner des priorités sur les sujets, parce que au début t'es seul, tu peux difficilement t'entourer parce que t'as peu de réseau, peu de moyens. À la fois c'est une richesse et une simplicité, t'as une forme d'efficacité là-dedans, mais très rapidement t'es juste en train de faire ta compta, de gérer tes stocks, de tout faire en même temps, penser à la future collection, de rappeler tes clients, d'essayer de développer la longue liste de boutiques avec laquelle collaborer. L'ADC m'a permis de mettre un peu d'ordre là-dedans et aussi de me décomplexer au niveau commercial, de prendre du plaisir en fait, voilà, dans des tâches qui pour moi étaient horribles.
Ouais.
Certaines le restent, hein.
Ouais.
Comme faire un tableur Excel, des choses comme ça, mais dans lesquelles je commence à même prendre du plaisir, puisque tu commences à le maîtriser et à t'en servir comme d'un outil.
Ça, mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est quand même le biais de beaucoup de créatifs, de designers, etc. Mm-hmm. Ils se disent, ça, c'est pas pour moi.
Exactement.
Je ne veux pas le gérer. Sauf que.
Ou bien je ne sais pas faire.
Ou je ne sais pas faire.
Toujours
ouais,
ça.
C'est ça. Ouais. Et le problème, c'est que, c'est dommage, parce qu'en fait, tu peux prendre beaucoup de plaisir. C'est essentiel dans ton business quand tu montes une marque de vêtements ou une marque de maroquinerie. Et finalement, quand je parle avec tous ces anciens repentis designers qui disent c'était pas pour moi, c'était horrible, ils disent mais en fait je suis con de pas l'avoir fait plus tôt, parce que je prends vraiment mon pied à le faire et je me suis fait bananer pendant des années à repousser ce truc là à me faire arnaquer par des gens qui étaient mal qui étaient pas bienveillants, et quel dommage, quoi, parce que ça peut être kiffant.
Oui, tout à fait. Et tu retrouves, enfin, en tout cas, ça, c'est ma manière de le voir, un outil bien fait a une forme de beauté et pour moi et c'est extrêmement satisfaisant de me dire bon ben voilà on a
un beau tableau Excel,
un beau tableur, une bonne gestion, on sait qui rappeler et comment et t'as juste envie de t'y mettre quoi.
Ouais, ouais, c'est clair. Le c'est quoi ta vision là pour les années qui viennent, comment tu vois les choses évoluer?
Grande question puisque ma vision change assez fréquemment.
Ouais.
Et pourtant, en fait, le projet change pas. Donc, je vais avoir un nouvel atelier à la Villa du Lavoir, donc dans le 10e, à deux pas de mes fournisseurs. Donc, ça va ancrer le projet enfin, parce que j'ai pas mal galéré à changer d'atelier régulièrement. Donc là, j'ai une énorme chance. C'est un atelier de la ville de Paris qui va être un 369. Enfin, un bail commercial et un peu de stabilité. Donc, ça me permet aussi de, tu vois, de manière très basique et essentielle, de me dire bon, ben, mon entreprise est là. Tout simplement et va me permettre très simplement d'avoir un showroom, de pouvoir faire venir des journalistes, de pouvoir rencontrer
c'est plus un projet, c'est un
de pouvoir
c'est
te recevoir sur entreprise. Place la prochaine fois enfin, ouais. Tu vois, voilà, oui, c'est une entreprise et de créer un lieu de vie et un lieu d'échange et d'activité qui fasse qu'on pourra faire des shootings sur place, qu'on pourra monter des sacs sur place et faire des envois si besoin. Ce sera aussi un lieu de création et de conception. Voilà, donc ça pour moi c'est extrêmement important. Après la suite, il y a un enjeu qui est assez important dans le projet. C'est que les sacs sont réalisés en deux parties, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui consiste à faire les découpes, toutes les tranches, le marquage, et tu obtiens une feuille, et une partie qui consiste à monter le sac. Et je pense qu'on a un enjeu de taille là-dedans, c'est que tout d'un coup, là je vais recevoir des sacs bientôt qui sont tous à plat. Et d'ailleurs moi-même, quand je les produis, j'ai aussi cette démarche-là, je garde tous les sacs à plat et je vais les monter au fur et à mesure. Et tout d'un coup, dans un mètre cube d'espace, j'ai 200 sacs. Alors que monter, il me prendrait 10 mètres cubes ou je ne sais quoi, enfin ce serait énorme. Et ça, c'est une vraie richesse du projet. Et mon rêve, c'est une confidence, hein, j'en parle rarement, mais mon rêve, ce serait d'avoir des tout petits points de vente dans le monde, dans des grandes capitales, tu vois, à New York, à Sydney, à Tokyo, avec des partenaires qui travaillent sur place, qui reçoivent les sacs à plat et qui viennent les mettre en forme au fil des commandes, au fil des clients, et pourquoi pas aussi personnaliser, tu vois, comme il y a deux, il y a la bride et le corps du sac, on pourrait aussi modifier la couleur, venir personnaliser, c'est un moment où tu peux venir encore marquer le cuir, puisqu'il a pas été mis en forme.
En forme, ouais.
Donc il y a une vraie richesse à ce niveau-là, et mon rêve c'est ça en fait, ouais. D'avoir des lieux dans lesquels on vient parfaire l'objet, et je trouverais même assez beau de se dire, bah, du coup c'est un objet qui est made in Paris, et made in Tokyo ou made in Sydney, puisque la dernière phase de production a été réalisée dans ce lieu.
D'accord.
En fait, c'est assez drôle de dire ça, puisqu'on sait à quel point c'est controversé, cette histoire de made in.
Ouais.
Parfois, il s'agit juste de prendre une matière qui a été réalisée ailleurs et de venir la mettre en sachet ou de venir estampiller une marque. Mais là, voilà, du coup, je trouverais ça assez drôle et très transparent, en fait, d'expliquer que le process est scindé en deux parties.
Excellent. Oui, il y a un sujet que j'ai envie de parler avec toi, c'est que tu t'es fait accompagner par Au-delà du cuir, par ton frère au tout début. Aujourd'hui, t'es entouré par d'autres personnes ?
Ça dépend des moments. On a été deux pendant quelques mois.
Ouais.
Donc j'avais une personne qui était complètement dédiée à la gestion des clients et au développement commercial. Donc c'était plutôt bien, ça s'est arrêté parce que ça devait se finir et du coup je dois chercher quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Après moi on me dit toujours, attention, tu es la meilleure personne pour aller vendre ce que tu fais. Et là-dessus en fait j'ai pas de réponse parce qu'on j'entends toujours les deux. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a du recul et qui va être décomplexé par rapport au produit et en parler avec pas mal de détachement. Ou bien tu connais parfaitement ton produit et l'histoire du projet, donc il vaut mieux que tu te déplaces en personne. Et en plus, c'est très flatteur et beaucoup plus riche pour quelqu'un qui a une boutique à Bordeaux ou je ne sais où, de te rencontrer directement plutôt que de rencontrer quelqu'un qui représente la marque. Donc je n'ai pas encore la solution finale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais m'y coller, puisque je l'avais délégué, je ne l'avais pas fait. J'ai envie d'avoir l'expérience, d'une part, pour savoir de quoi il s'agit quand je vais devoir demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Et en plus, je pense que c'est extrêmement riche dans les retours que tu peux avoir. Moi, je recontacte souvent les boutiques et même les clients qui nous achètent en direct sur Internet pour savoir comment ils nous connaissent, pour savoir comment vit le produit, quels sont les besoins, etc. Et c'est aussi inspirant pour moi pour imaginer de nouveaux produits. Mmh. Donc je vois vraiment en fait l'ensemble, bon je sais que je pourrais pas être partout, mais je vois l'ensemble comme un écosystème. Quoi.
C'est quoi ta relation au temps?
C'est-à-dire?
Non, c'est-à-dire, je sais pas, enfin c'est vrai que c'est très large comme question, mais j'ai le sentiment que toi t'es une personne qui prend le temps de faire les choses bien. Et parce que souvent dans entreprendre dans la mode, je croise des gens qui sont mais surexcités quoi, et qui veulent une croissance
d'accord,
explosive.
Okay, je
tout
comprends
de suite,
bien
etc.
la question. Effectivement, moi je ne travaille pas du tout, par exemple avec des saisons.
Ouais.
Je ne travaille pas en printemps, été, automne, hiver. Je ne travaille pas en hommes et femmes. Donc c'est une marque qui est mixte. Je suis plutôt parti sur des modèles que je veux pérenniser, des modèles qui éventuellement vont disparaître du catalogue s'ils ne font plus sens, mais je travaille quand même par collection puisque j'ai tendance à vouloir décliner une architecture de sac en différents formats, mais je ne travaille pas dans le sens des tendances ou des couleurs qui auraient été repérées pour être à la mode cette année, puisque par exemple en utilisant du cuir à tannage végétal, je suis déjà contraint par des coloris qui vont être des tons rompus, puisqu'on vient pas couvrir le cuir, on a déjà la couleur de la peau par-dessus laquelle on peut rajouter une couleur, donc on est sur des tonalités assez foncées, par exemple. Donc le rapport au temps, c'est celui-ci. Le rapport au temps en termes de développement de collection est extrêmement long, puisque par exemple, le sac à dos que j'ai sorti il y a 2 ans, je l'avais dessiné il y a à peu près 5 ans.
Waouh.
Mais il a fallu, parce qu'en fait, c'est une, si tu veux, quand je fais un sac, c'est une équation géométrique. Donc, il y a des sortes de solutions que je dois trouver qui viennent à la fois de moi, mais qui viennent aussi beaucoup de l'écoute de la matière. Donc, il est difficile de dessiner un objet comme je pourrais peut-être le faire si je faisais de la maro classique. Je pourrais l'envoyer à un maroquinier qui ferait le développement et qui interpréterait même les dimensions et qui m'apporterait une solution. Ici, c'est tellement une forme qui doit être repliée sur elle-même avec des encoches qui doivent se correspondre que c'est un vrai casse-tête. Et du coup, ce sac, en fait, j'ai attendu août 2016 d'avoir une fenêtre et de décider, comme tout était plus calme, t'as pas de mail, t'as rien, il y a personne à Paris, de ne pas prendre de vacances pour prendre un mois plein pour résoudre cette question-là. Donc en fait, la temporalité, c'est celle-ci. C'est que tout d'un coup, j'ai des projets et encore... donc j'ai parfois, je nourris une forme de frustration parce que je me dis, oh là là, c'était quand même des sacs que j'ai dessinés il y a longtemps et je vais enfin les réaliser 2, 3, 4 ans plus tard. Donc la réalité, c'est celle-ci. Voilà.
Mais toi, c'est ta temporalité. Depuis longtemps, t'as toujours fonctionné comme ça, j'ai l'impression.
Ouais, on est en train de plonger dans la psychanalyse, mais c'est pas faux. C'est pas faux, puisqu'en fait, c'est vrai que très souvent, j'ai fait même des protos pour des expositions ou autres, et le temps que je ressorte le produit, ou pas, d'ailleurs, oui, le temps passe. Le temps passe, les années passent. Parfois, c'est frustrant. Parfois, tu te dis au contraire, oulala, je n'assume plus. Heureusement que j'ai pas sorti ça immédiatement. Bon voilà, tu vois, par la nature de ma réponse, tu vois aussi à quel point j'ai peu de détachement par rapport aux projets et aux objets produits. Tu vois, je n'arriverai pas à me dire je produis ça parce que ça colle au marché et en avant.
Mais je trouve que c'est un côté rafraîchissant à une époque où il faut sortir beaucoup de choses, être dans le renouvellement, etc. Je salue cette façon de faire et je trouve que moi c'est un côté vachement apaisant en fait. Tu dis en fait on peut encore prendre le temps de faire les choses bien, de réfléchir à un produit, etc. Il y a une viabilité économique. Enfin en tout cas t'es en train de le démontrer petit à petit et année après année. Je trouve que je comprends que le produit trouve son public quoi.
Mais quand tu regardes, pour parler de produits qui ont rien à voir, mais les deux premiers exemples qui me viennent, c'est la Converse ou ce sac Fjällräven là qui fait un carton depuis 3-4 ans. Ce sac, il a 40 ans, il a été conçu en 78. Et je pense que selon les pays et les zones géographiques, il a eu ses moments de gloire, des moments où il était devenu complètement has-been, il ne signifiait plus rien. Et les Converse, c'est pareil.
Converse, c'était ça a plus
de temps. Tu as des moments, voilà, de hausse et de retour du produit, et pourtant le produit n'évolue pas.
Mais il est toujours aussi cool.
Ça reste un produit iconique. Et en fait, j'ai envie d'aller vers ça. Et j'ai envie d'être au plus proche de la production quand même. Moi, j'ai un exemple, un designer en tête qui pour moi est absolument exemplaire, c'est Jean Prouvé, qui était designer architecte et qui avait ses propres ateliers. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on a des objets, notamment la chaise Prouvé, qui est absolument iconique, et pourtant elle a été déclinée en matière et en solutions techniques dans le temps. Elles sont tout aussi belles au final. Tu n'as pas la meilleure version, mais tu sens que sur une pensée, un objet bien conçu en fait peut avoir aussi différentes résonances dans le temps en fonction des avancées techniques.
D'ailleurs, qu'est-ce que tu regardes dans l'industrie de la mode pour t'inspirer ? Peut-être que tu la regardes même pas du tout, je pense, non ?
Si, je suis très curieux. Ouais. Je me suis mis à épier tous les sacs à main dans le métro, dans la rue, et d'ailleurs d'être à Paris pour ça, c'est extrêmement riche.
Il y a une richesse du sac à main à Paris, tu trouves ?
Oui. Moi, je suis souvent surpris de ce que je vois. On m'arrête quand je porte mon sac très souvent, ce qui est plutôt un bon signe. Ouais, et moi-même, je vais voir des gens qui portent des sacs qui me plaisent. Je les interroge aussi sur ce qui leur plaît dans leurs produits, ce qui fonctionne bien ou pas. Ça, c'est un des aspects qui m'a énormément plu aussi au début de ce projet, c'est de me dire, mais c'est extraordinaire, si je faisais des chaises justement, ben, je pourrais pas me trimballer avec la chaise dans le dos. En revanche, le sac, c'est extrêmement immédiat, et y compris en termes de, voilà, de compréhension du marché. Après, je vois un peu tout le temps les mêmes, les sacs à PC, pour les sacs à main. Donc c'est vrai que t'as des sacs qui reviennent beaucoup, mais de temps en temps, je suis surpris. Y compris par des modèles historiques qui vont avoir été glanés sur un marché ou autre.
Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça ?
Je ferais la même chose, mais autrement. En fait, ce que j'allais te dire juste avant, parce que la question, tu me disais comment tu t'inspires, et dans l'histoire de l'inspiration, t'as aussi il faut s'inspirer, mais pas trop, ou est-ce que tu fais ce qui est en train de se faire, ce qui est dans l'air du temps ? Et moi, très souvent, je me dis, mais j'ai une chance incroyable d'avoir mis en place cette discipline de sans couture, parce que quand bien même je voudrais copier un sac d'une autre marque qui est réalisé autrement, par le procédé technique, il serait transformé naturellement en autre chose. Donc en fait, j'ai pas ce problème de me dire oh mince, mon idée
trop.
Vient de sortir. Ce qui arrive très souvent en fait, quand je faisais du design, plus généraliste avant, quand je faisais du mobilier, ça m'arrivait sans cesse d'avoir un projet dans les cartons et de me dire, tant pis, je ne le sors pas, puisqu'il y a un projet ressemblant, comme les choses sont dans l'air du temps, qui vient de sortir par quelqu'un d'autre.
Cette idée d'air du temps, là, c'est quoi, en fait? C'est, les gens sont inspirés par les mêmes choses, en fait. C'est pour ça qu'ils sortent les mêmes choses, c'est que c'est une expo qui inspire
quelque
chose. Je
pense que c'est ça, et c'est assez rassurant, au fond. Mais justement, on doit parvenir à cultiver une singularité. Je pense qu'elle passe beaucoup par les contraintes. Moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études à l'ENSI sur la contrainte créative, tu vois, et justement, je m'apercevais que... pourquoi j'ai fait ça ? Déjà parce que j'arrivais pas à faire de choix, j'avais trop de doutes, et je me suis aperçu que si je venais restreindre les possibles à la base, même les restreindre énormément, j'allais avoir plus de richesse dans mes propositions que si je me disais, tout est possible, voilà.
Très bien. Comment tu fais pour te nourrir ? Et l'autre question, c'est, est-ce que tu regardes Instagram pour te nourrir ou pas ?
Oui, de plus en plus.
Ouais.
De plus en plus, je m'abonne à d'autres marques.
Ouais.
Je vis pas ça du tout, je suis pas caché, tu vois. Je m'abonne, je les regarde. Je vis pas ça du tout comme épier la concurrence, puisque je trouve qu'on est très différents. Être à la DC aussi, ça me montre ça à aucun moment. On se dit qu'on est concurrent, parce que si les marques ne sont pas devenues des marques généralistes, touche à tout, et des monstres, mais restent proches de leur concept initial, en fait, t'as pas vraiment de concurrence. Mmh. Tu peux avoir évidemment une cliente finale qui, dans un magasin, va pas commencer à acheter 50 sacs, donc elle va prendre l'un ou l'autre. Mais au final, enfin voilà, je trouve ça plutôt sain. Pour moi, c'est plutôt inspirant de voir d'autres schémas, éventuellement des usages aussi, hein, des volumes de sacs auxquels j'aurais pas pensé. Voilà, je pensais à autre chose, du coup, moi, j'ai perdu le fil.
Ouais. Mais sur l'inspiration, tu vois l'inspiration partout et sur Instagram aussi. Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup d'uniformisation à cause d'Instagram, parce que Instagram, t'as un côté soit t'es waouh, soit t'es minimaliste, et on parle d'Instagrammabilité des images et des objets, oui, des vitrines, etc. Et je me demandais, enfin moi c'est une interrogation que j'ai en ce moment, c'est est-ce qu'il faut encore regarder Instagram pour pouvoir surprendre en fait tes clients? Est-ce qu'il faut pas, bah, bien sûr qu'il faut les regarder ailleurs, mais il y a un moment il faut même se couper complètement d'Instagram pour être capable de proposer quelque chose de concrètement, enfin de vraiment différent, quoi.
C'est vrai, tu peux, mais ça je pense que c'est bon avec Instagram mais avec tous les médias, y compris avec la presse. Effectivement, je pense que c'est une richesse de se déconnecter et de chercher la ressource en soi. Quand je suis parti sur cette île, tu vois, et que j'ai fait un sac, à aucun moment je me suis posé la question du marché du sac, j'en avais absolument aucune idée. Et c'est au fil des demandes où on me disait je voudrais le même mais plus grand, plus petit, etc., que je suis rentré dans cette histoire de sac. Ça m'intéressait pas, le sac à main, au départ. Et d'ailleurs, j'ai, pour rebondir sur ce que tu dis, moi très souvent en coaching aussi, on m'a dit mais allez, arrête de t'embêter, parce qu'en fait je fais très peu de marge. On n'a pas parlé de ça, mais tu vois, je fais une marge de 2 puis une marge de 2,5, ce qui est la base pour être rentable. C'est-à-dire, je fais produire un sac 50, je le vends 100, la boutique double elle-même pour vivre et payer son loyer, donc elle le vend 200, tu rajoutes la TVA, on est à 250. En gros, c'est le principe. Et si on était en dessous, je ferme immédiatement, en fait. Et pourquoi je te dis ça? Parce que voilà, on me dit souvent, mais pourquoi tu augmentes pas tes marges? Mes cuirs, ils coûtent 70€ minimum le mètre carré, hors taxe. Du coup, j'ai un matériau qui est assez cher. C'est pour ça que j'ai fait du sans couture. C'était pour pouvoir avoir un très beau matériau et avoir beaucoup moins de frais en main d'œuvre. Et on vient souvent me dire, mais en fait, pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Tu vas produire au Portugal, allez, mets quelques coutures, parce qu'en fait, tu vas te faciliter la vie, tu vas avoir des cuirs un peu plus fins, etc., etc. Et à la fin, c'est juste, bah, tu vas faire comme tout le monde, et tu vas devenir justement une espèce de marque qui regarde ce que font les autres, ce qui marche, et qui fait ce qui marche déjà. Je résiste souvent en me disant, mais non, parce que si j'ai plus ça, en fait, j'ai plus rien et je vais moi-même tomber dans un truc absolument vertigineux. Qu'est-ce que je vais faire si tout d'un coup, je peux coudre, utiliser tout matériau, que j'ai plus de ligne éditoriale au sens noble, en fait.
C'est vrai que cette contrainte que tu t'es fixée dès le départ fait ta singularité, quoi.
Voilà. Donc ça, il y a évidemment des clients que je ne toucherai jamais, mais
c'est pas grave. Il faut être clivant, voilà. Il y a un moment, quoi.
Si tu plais, donc je suis pas Nike qui tout d'un coup a X
modèle, ouais.
Voilà, X modèle qui veut correspondre à la planète entière. C'est pas du tout mon propos.
Si tu avais l'opportunité de glisser un mot à Sébastien au tout début de ses carrières, quand il était encore à l'école ou à la sortie de l'INSEE, tu lui dirais quoi?
De penser à l'envers. Mais même à Sébastien d'il y a quelques mois. Juste voilà. Enfin, tu vois, je pense la plupart du temps, on n'avance pas parce qu'on est crispé sur des peurs. Je vais confier la prod, est-ce que ce sera vraiment bien fait, etc. Ben voilà, n'aie pas peur, fais confiance aux autres, entoure-toi, échange un maximum.
Parce que c'est voir le verre à moitié plein, plus qu'à moitié vide, voir le bon côté des choses, c'est
ça aussi, mais je dirais surtout. J'allais plutôt dans le sens de déléguer. Au lieu de vouloir que tout soit bien fait, du coup, de tout maîtriser, tout contrôler toi-même, ben, repose-toi aussi dans le bon sens, hein, en faisant confiance sur les autres. Ce que j'ai fait là, en déléguant une partie de ma prod, en acceptant qu'elle parte directement de l'atelier, en ayant des retours, tu vois, de clients surpris parce que le cuir est un peu plus mat que d'habitude, parce que oui, on n'a peut-être pas utilisé la même cire pour patiner le cuir. Bon, voilà. Après, c'est des petits risques à prendre, mais...
Mais ça te fait avancer voilà, dans la bonne direction.
Ça te libère, ouais. En fait. Moi, comme je suis designer au départ et que j'étais vraiment dans une optique de profession libérale un petit peu classique, ouais. Tu vois, avec les modèles que j'ai, je parle de mes modèles parentaux, évidemment, j'avais une... Enfin voilà, j'avais du mal à me dire, même en étant designer, je vais monter un studio, je vais avoir des designers en dessous de moi, et au lieu de tout faire moi-même, ben je vais juste leur donner des directions, voilà, faire de la DA et leur confier le job. Je pense que ça aura jamais vraiment lieu, mais voilà, il faut à un moment donné s'entourer et tu peux avoir plein de bonnes surprises. J'ai eu une stagiaire formidable, Emma Kschwint, il y a 2 ans. Et bah évidemment, à l'époque, parfois, je me disais, ah, elle fait pas ce que je veux, elle le fait pas comme je l'aurais fait, etc. Donc, sur le coup, je le vivais comme ça. Voilà, la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Mais au final, et avec du recul, on a fait un shooting extraordinaire avec un photographe qui était déroutant par rapport à ce que j'aurais fait. Des modèles qui étaient ses amis et qui nous ont permis, tu vois, de faire tout ça un petit peu bricolé, mais en fait assez étonnant, et qui m'a permis aussi d'ouvrir l'univers dans lequel la marque allait s'inscrire. Je te parle de mon premier, enfin de mon second shooting, mais qui était le premier où on essayait vraiment d'avoir des lookbooks, etc.
Très bien. Eh bien écoute, on arrive à la fin de cette interview, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble.
Ah oui. J'avais peur de pas tenir la longueur, mais ça passe vite.
Ça passe super vite. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux, d'autres sujets que tu veux aborder ?
Non, je crois qu'on les a abordés en général. Ah si, peut-être un sujet lié à une anecdote. D'ailleurs, le premier sac que j'ai vendu à Paris en magasin, c'était dans une toute petite boutique face à une amie designer qui m'hébergeait d'ailleurs au départ à l'origine du projet. Donc, je lui avais naturellement offert un sac. Elle va dans cette boutique, le sac plaît, la personne veut un sac, m'en commande un. Donc, à l'époque, tu imagines, j'allais livrer un sac ridicule maintenant avec le recul, mais j'allais lui livrer un sac en dépôt et j'ai à peine le temps de m'engouffrer dans le métro, c'est-à-dire 2 minutes 30 plus tard. Allô Sébastien, c'est Stéphane, le sac est vendu. Donc ça, super nouvelle. Mais j'ai continué à faire du dépôt avec lui, ce qui était une erreur absolue pour différentes raisons. C'est que moi, ça m'obligeait à lui courir derrière pour savoir s'il a vendu ou pas. Lui, il a pas de raison de vendre ou d'avoir fait une sélection dans laquelle il croit vraiment, puisqu'il n'a pas investi d'argent dedans, même si ça prend de l'espace dans sa vitrine. Du coup, si je dois donner un conseil à un jeune entrepreneur, c'est de ne pas faire de dépôt, parce que c'est un cadeau empoisonné de part et d'autre. Après, je te raconte pas la galère dans laquelle on était, mais bon, c'est juste, voilà, c'est un cadeau empoisonné. Il vaut mieux accepter un panier très mince et même avoir vendu 2-3 sacs pour faire un test à une boutique que les mettre en dépôt, même si tu fais une meilleure marge, soi-disant, parce qu'en fait, c'est jamais très clair cette histoire. Tu te retrouves avec des sacs qui ont été touchés, qui ont peut-être été abîmés, etc. Enfin, c'est à ne pas faire, voilà.
D'accord. Bon, bah c'est un conseil essentiel. Merci infiniment. En tout cas, je finis quand même avec ma dernière question. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Ah, waouh. De nombreuses personnes. je pense en premier à la directrice actuelle de l'ADC, Sophie Viotkoster, parce qu'elle a été entrepreneuse elle-même. Parce qu'elle gère l'ADC et que je pense qu'elle aura un regard très diversifié pour parler des voilà d'entrepreneuriat en général. Je pense peut-être à une deuxième personne qui a pas du tout le même profil, qui est Aurore Thibault, qui est designer textile, qui fait de la teinture végétale, qui travaille à l'étranger, notamment à Taïwan et au Japon, pour des raisons très nobles et pas du tout pour des raisons de coût de prod. Et qui a un profil assez atypique. Voilà.
Trop bien. Cool. Et bah, merci infiniment et good chance. Good luck à Archipel et à toi. À bientôt. Salut.
Merci beaucoup. À bientôt.
Bye.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.